Nous sommes mercredi 15 mars 2017, il est 21h, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar.
Bonsoir à tous, bonsoir Méduse. Méduse, bonsoir Rosgar.
Bonsoir.
J'ai tellement l'habitude de dire bonsoir.
Je ne suis pas belge.
Tu n'es pas, voilà, tu n'es point belge, tu n'es point méduse. Bonsoir Zergy.
Bonsoir.
Oula, Zergy, tu es dans un bocal. C'est très bizarre.
Il est encore été dans une boîte.
Je ne sais pas. C'est extrêmement étrange parce que le. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Pour l'émission de ce soir, nous allons enfin parler d'une petite console. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Nintendo Switch. Apparemment,
la quoi?
Je
sais pas. Ah, la Game Gear.
La Game Gear, voilà. La Game Gear.
Game Gear,
La Game Gear. Quand on est
c'est pareil.
Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Normalement, on devrait dire Game
la
Gear.
La Game Boy.
La Game. Il est horrible. Mais tu n'as pas connu ça, la Game Boy, gamin.
Ah, alors si, c'était ma première console portable, la Game Boy Color.
Ouais, j'ai pas la Game Boy Color. Ouais, bah, t'as pas connu la Game Boy originale. Ça, c'était une vraie révolution. Tu pouvais trimballer toutes tes jeunesses dans ta poche, c'était la folie.
Ouais, tu te rends pas, avec 4 piles.
Mais avec 4 piles, ah non mais attends, c'était ouf quoi, avec 4 piles, tu jouais pendant 20-25 heures, les jeunes, ils devenaient ouf, hein. C'était... Pourtant, il y avait quand même pas grand-chose, hein, comme jeu. Bref, nous allons parler de Nintendo Switch, on va essayer de donner nos impressions sur le hardware, sur les Joy-Con, le fait de se détacher, la mobilité... la fixité, puisque voilà, il y a le dock et tout ça. On va essayer voilà, de brosser un petit tour, maintenant qu'on a fait deux bonnes semaines avec. De voir un petit peu...
À peu près, ouais.
Exactement, de voir un petit peu si ça a changé nos habitudes de jeu. Alors, y compris Zergy, d'ailleurs, deux semaines avec, parce qu'au départ, il y croyait pas, puis maintenant, il y est, quoi.
Maintenant, il est à fond.
Il est à donf. Il est à
oui,
dos de chez
j'ai donc. Décidé que j'aurais pas de race pour cette génération de consoles.
Voilà. Que pour une fois t'allais y aller en premier. Mais nous allons commencer avec notre traditionnel tour de table de l'actu, et je crois que je suis le seul à avoir une actu, donc je vais commencer. Ça va être un tour de l'actu très très court.
Vas-y, j'ai rien de bien, donc je peux essayer de faire tout seul.
Voilà, il a été... Alors, est-ce que vous connaissez le jeu PC qui s'appelle Millennium Racer Y2K Fighters?
Pas du tout.
Voilà. Donc c'est un jeu qui est sorti sur PC en 1999, qui est fait par un développeur russe,
ouais.
Et qui a eu un petit succès d'estime. En fait, c'est un petit peu un mélange entre Extreme G et Wipeout. Alors Extreme G parce que tu pilotes des motos, et Wipeout parce qu'elles sont impilotables, et en plus c'est très moche, et il y a de la musique techno russe de merde. Voilà. Donc le jeu en lui-même a à peu près aucun intérêt.
Donc le GOTY 99.
C'est ça, c'est le... En plus, bon, on sort sur PC, tout ça. Donc ce jeu n'avait absolument aucun intérêt sur PC. Le seul truc intéressant, c'est que y a un utilisateur de NeoGAF, qui est connu sous le nom de Japanese Cake, qui a récupéré un kit de développement Dreamcast en Russie. Donc Katana, c'était le nom des kits de développement Dreamcast. Donc c'est une espèce de gros PC, en fait. Avec un firmware particulier, un disque dur dessus et tout ça, sur lequel on peut développer directement des jeux. Il y a de quoi mettre un clavier et une souris, on peut tester directement du code Dreamcast.
Ouais.
Et donc le mec récupère un Katana en Russie, via un autre utilisateur, et il se rend compte qu'il y a dessus un jeu programmé, complet, qui est justement Millennium Racer, Y2K Fighters, donc qui est ce jeu de course, et c'est pas une version bêta, c'est pas une version de test, c'est pas voilà, c'est vraiment le jeu complet, fini, prêt à imprimer. Il y a même le numéro de série, le bazar, le truc, il y a tout dans l'ISO qui est sur le kit de développement.
Sur Katana.
Il y a absolument tout ce qu'il faut pour le publier, mais le jeu n'a jamais été publié.
Ah, mais il est jamais sorti.
Il n'est jamais sorti. C'est un jeu qui a été fini sur Dreamcast, qui n'est jamais sorti, et qu'on vient de redécouvrir... parce que quelqu'un a réussi à mettre la main sur ce kit de développement qui apparemment était destiné à finir à la poubelle.
Ah oui, parce que la version initiale était sur PC, c'est ça?
La version initiale était sur PC.
D'accord.
Donc le portage Dreamcast de cette version-là, il était fini à 100%, le jeu est voilà, vraiment prêt à sortir, il n'y avait pas de bug, pas de machin, il n'y a pas de... Parce qu'en général, quand tu as des versions de développement comme ça, tu as souvent des menus de développement, des menus de debug, des choses comme ça, tu as des indications à l'écran, genre le nombre de FPS que tu n'auras jamais sur la version finale. C'est les trucs qui sont systématiquement éliminés parce que faut que ce soit un peu propre. Donc non, là, c'est vraiment une version finale du jeu qui est resté sur ce kit de développement là, qui n'est jamais sorti. On ne sait pour le moment absolument pas ce qui s'est passé. Là, les gens de, sur NeoGAF et sur d'autres sites essayent de retrouver les développeurs originaux, les propriétaires originaux de ce kit de développement Katana pour savoir ce qui s'est passé, savoir si la société a fait faillite, si le jeu a été annulé, si la sortie a été annulée pour une raison X, Y, Z, si Sega n'en voulait pas, si... Voilà, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe.
Ils ont peut-être simplement perdu le Katana à l'époque et finalement ils avaient perdu le jeu dedans.
C'est pas impossible qu'ils aient perdu le code source du truc et que finalement la seule copie qui existe c'était celle-là, ça a été perdu dans un placard pendant un déménagement, enfin voilà, on peut imaginer...
C'est quand même con. Hein.
Ce serait quand même très con, mais on peut imaginer à peu près toutes les... Oui.
C'est les hackers russes, ou la mafia.
C'est les hackers russes.
C'est
les chinois du FBI. Voilà, donc on sait vraiment pas ce qui s'est passé avec ce jeu, c'est un mystère complet. J'espère qu'on en apprendra plus, parce que même si le jeu en lui-même n'a aucun intérêt, je trouve que le fait d'aller retrouver un jeu complet qui n'existe que sur un seul kit de développement et qui aurait été totalement perdu si ce truc-là avait fini à la poubelle, ou si le disque avait crashé, hein, tout bêtement, c'est quand même super intéressant, donc j'espère que les gens arriveront à retrouver. En attendant, l'ISO commence à circuler sur Internet, donc si vous avez un émulateur Dreamcast ou une vraie Dreamcast, vous pouvez faire tourner ce jeu. Je peux pas vous garantir qu'il est bon, hein. De ce que j'ai compris, c'est quand même pas terrible, mais ouais, il est sans
problème. C'est ça le problème au final, c'est que le jeu soit pourri. Enfin, c'est
ah oui, non, mais le mec qui va arriver à retrouver Earthbound 64 sur un 64DD de développement au Japon.
Voilà, là c'est intéressant.
C'est le roi du pétrole, hein. Vraiment, c'est le roi du pétrole. Ce mec-là, il va pouvoir le vendre des millions, réellement. Il y a des fans de Earthbound qui, je pense, seraient prêts à se cotiser et à payer des centaines de milliers de dollars pour arriver à avoir une copie de développement de ce jeu. Connaissant Nintendo, ça n'arrivera pas. Voilà, on retrouve... Alors, je sais pas quelle est la politique de Nintendo sur le kit de développement, s'ils les rappellent une fois que les produits sont... Enfin, une fois que les consoles sont mortes, ou si, finalement, ils ont des numéros de série... Enfin, je sais pas comment ça fonctionne.
Je crois que oui, c'est rappelé. C'est une ouais. propriété insaisissable de Nintendo, et les autres sont pareils. Hein. Je pense que Sony et Microsoft n'ont pas non plus envie de voir des kits se balader dans la nature.
Alors c'est très bizarre parce que c'est bien possible que tout se fonctionne comme ça, mais on arrive quand même à retrouver des kits de développement Dreamcast, ça se retrouve assez facilement. Alors tu vas me dire peut-être que Sega a laissé tomber au milieu et s'est dit que ça valait pas le coup de faire un rappel.
Oui, bah ils s'en foutaient, la console était morte, donc si ça se trouve ça les dérangeait pas.
Ah complètement, c'est tout à fait possible. Vraiment, pas de problème. On retrouve quand même, on arrive à retrouver de temps en temps des kits de développement GameCube, des kits de développement Wii, des kits de développement N64. On arrive à retrouver ce genre de pièces-là de temps en temps, mais c'est quand même extrêmement rare, c'est assez difficile à retrouver. Les kits de développement Xbox et les kits de développement PlayStation, on en retrouve beaucoup plus. Alors, surtout en Europe. Alors, le cochon d'Inde, c'est pas parce que je dis Europe qu'il faut s'exciter. Voilà.
Le pauvre.
Un kit de dev Xbox, ça s'appelle un PC.
Le pire c'est que c'est vrai. Il y a que mais les kits de développement PlayStation 2 par exemple, on arrive à en retrouver quelques-uns. C'est pas évident, mais en Europe on arrive à en retrouver quelques-uns. C'est des pièces relativement rares. De toute façon, c'est pas du hardware qui est produit à énormément d'exemplaires, mais on arrive à en retrouver. Les kits de développement Dreamcast, on arrive à en retrouver un petit peu partout aussi, mais c'est pareil, c'est pas si évident que ça. Bref, donc voilà, peut-être qu'un jour, alors si vous nous écoutez et que vous avez la chance d'accéder à des kits de développement de quoi que ce soit, conservez-les précieusement, amenez-les à des gens qui sauront quoi en faire, parce que si ça se trouve, vous avez peut-être des versions bêta d'un jeu, alors ça vaut peut-être pas grand-chose, mais pour la conservation, le patrimoine du jeu vidéo, c'est des choses qui peuvent être très importantes, et peut-être, si vous avez un 64DD de développement, peut-être que vous avez un Earthbound 64, et ce serait beau,
ce serait très beau d'arriver.
On ne sait jamais. Ce serait extraordinaire d'arriver à remettre la main là-dessus, d'arriver à remettre la main sur ce jeu-là. Même si, je n'y crois plus. Hein. C'est un peu le mouton à cinq pattes, la licorne, enfin bref, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même très peu probable qu'on arrive à remettre la main là-dessus. Bref, on va se faire une première petite pause musicale, et on va écouter un petit extrait de la bande originale de Skyward Sword. Alors c'est le tout début du jeu, c'est un petit peu après l'introduction, c'est le cauchemar de Link. Le cauchemar où apparaît pour la première fois le banni, juste avant que Link se réveille parce qu'il y a un oiseau qui tape à sa fenêtre. Pardon. Voilà, donc le morceau s'appelle Link's Nightmare, tout simplement, et ça dure un tout petit peu moins de 2 minutes. À tout de suite.
Thank you.
de retour.
Tour.
Ah, je suis désolé, je me suis loupé sur le retour.
Tour.
Je me suis loupé sur le retour. Le morceau était très court en fait. Je me suis pas rendu compte.
Comme
que
ma...
c'est...
Merde.
Ah, perdu.
Donc le hardware. Ah, c'est qu'à le dire.
Le hardware. Première question. Maintenant qu'on, alors on l'avait déjà évoqué un petit peu la prise en main au mois de janvier, puisqu'on l'avait testé un petit peu en avant-première et puis voir des choses. Malheureusement, la plupart des Switch étaient attachées, elles étaient cadenassées soit à des supports, soit cadenassées en mode chevalet, soit cadenassées en mode mobile, soit que, enfin voilà. Donc, à part le contrôleur pro et les Joy-Con sur lequel on avait pu se faire une bonne idée, on avait vraiment pas pu se faire une idée sur la console en elle-même. Ne serait-ce que le poids, quand vous avez un énorme Kensington dessus qui verrouille le truc, c'est pas évident de se faire une idée. Est-ce que vous avez des remarques particulières sur le hardware en dehors de ce qui a déjà été dit? Est-ce que ça vous a surpris par la légèreté, par la taille, ou finalement, c'est à peu près ce que vous attendiez, c'est à peu près ce dont vous vous souveniez?
Bah, franchement, dans mes souvenirs, c'était bien, mais au final, on n'a pas eu le temps de le toucher longtemps, donc c'était un peu
comme
flou.
Ta bite.
C'est le cas de le dire. Et au final, bah, maintenant que je l'ai vraiment en main, que je peux l'avoir quand je veux dans les mains, comme ma bite...
c'est que ça t'a fait enfiler.
Oui, comme... Ouais, bref. Les Joy-Con sont vraiment... Enfin, la finition, on l'avait remarqué déjà en janvier, mais elle est géniale. Enfin, le truc est juste assez lourd pour que ça n'ait pas l'air trop cheap, mais assez léger pour que ce soit agréable à porter. Et du coup, non, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on parlera des modes de jeu, mais le fait d'avoir les deux Joy-Con séparés, moi ça me gêne pas du tout, au contraire. Alors qu'il y en a plein qui aiment pas forcément, qui préfèrent avoir un Joy-Dog, voire même la manette pro. Bah moi, avoir les deux Joy-Con dans une main et jouer comme ça, même devant ma télé, bah ça me dérange pas. Alors que sur la Wiimote, enfin sur la Wii en général, j'aimais pas trop le combo Wiimote Nunchuck, justement. Je sais pas ce qui change là.
Ah, c'est dommage, parce que moi j'allais dire ça ressemble du coup beaucoup à la Wii, dans lequel c'est la première fois qu'on avait tout d'un coup les deux mains libres l'une par rapport à l'autre et tu pouvais te placer un petit peu comme tu voulais.
Alors, elles étaient libres, mais il y avait un câble. Déjà, ça change les choses parce que je me mets toujours dans la position n'importe comment. Et au final, quand je suis un peu sur le dos avec les bras croisés, là la Wii, j'aurais jamais pu faire ça.
Oui, non, c'est clair, mais c'est vrai que la Wii, je me rappelle que la première sensation, si tu veux, quand tu commences à prendre en main la console, c'est ça, c'est tout d'un coup tes mains se placent comme tu veux, tu peux les poser sur tes genoux, sur tes cuisses, sur, enfin tu vois, tout d'un coup t'es libre de tes mouvements. C'est très bizarre à dire, mais tu, ta main gauche, main droite, tu peux vraiment les jouer en rapproché ou très éloigné, ou après effectivement tu peux pas jouer les bras croisés parce que t'as le fil au milieu, t'avais quand même encore une attache finalement entre les deux morceaux. Là c'est vrai que les deux manettes sont totalement indépendantes. Ah, moi je joue très peu comme ça, hein. C'est vrai que...
Mais j'ai vu qu'il y a peu de monde qui jouait comme ça, alors que...
Il y a Syrah qui jouait ça, vraiment comme ça,
oui, j'ai vu Syrah, ouais.
Qui avait l'air de dire, moi j'adore ça, d'avoir juste les deux trucs super confort. Moi personnellement, c'est vrai que c'est pas mon truc.
Alors après, du coup, j'ai pensé au truc, et je me suis dit que c'était pas forcément bien pour certains jeux. Par exemple, des jeux de combat, où il faut pouvoir faire des quarts de cercle, je sais pas. C'était pas très pratique d'avoir juste un bout de manette dans les mains qui est pas stable, qui est pas lié à quelque chose de physique. Ou si tu veux lâcher la manette, t'es obligé de la poser, tu peux pas juste la lâcher en l'air. Enfin, elle est pas tenue ailleurs, donc ça aussi c'est des petits inconvénients. Mais franchement, ça, je passe totalement outre et je trouve ça vraiment différent comme mode de jeu. Et ça change des manettes classiques et du style de jeu qu'on a depuis 30 ans, quoi. Enfin...
Ah, mais du coup, est-ce que tu galères pas un petit peu, par exemple? Parce que c'est un truc bizarre aussi que j'ai remarqué, c'est pareil, c'est vraiment à l'utilisation. Quand tu joues en mode mobile, donc avec les deux Joy-Con attachés,
ouais.
Je trouve ça super confortable. C'est vraiment, tout tombe bien sous les mains. Le seul truc que j'aurais à lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas de croix directionnelle. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment de jeu qui s'en serve.
Ça me gêne pas forcément, ça, mais...
Mais je me dis que le jour où tu auras un jeu qui se sert vraiment beaucoup de la croix directionnelle, genre, j'ai pas
comme
essayé Shovel Knight encore, par exemple, sur lequel moi, je joue pas au stick, je joue plutôt à la croix.
Moi, je joue au stick 2D. Sur PC, mais...
Ouais, alors voilà, après, c'est toujours pareil. Tous les jeux que tu joues à la croix, tu peux y jouer au stick, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, je trouve que c'est pas top. Mais je trouve, par exemple, c'est... J'arrive à atteindre assez facilement le joystick droit, quand je joue comme ça, en mode mobile.
Ouais.
Quand je joue sur une manette, genre sur le Joy-Dog et tout, pareil, j'arrive à atteindre le joystick droit facilement. Par contre, avec les deux manettes séparées, c'est là où, moi, personnellement, j'ai essayé deux, trois fois et je galérais.
T'arrives pas à tenir la manette, du coup, donc t'arrives pas à descendre trop la main ou...
C'est ça, ouais. Effectivement, quand t'as la manette qui tient dans la main gauche, tu peux te permettre de bouger la main droite sur le truc sans que ça pose beaucoup de problèmes. Alors que quand tu l'as juste en main sans la tenir ailleurs, en gros, on va vraiment faire une émission avec des sous-entendus totalement affreux.
On doit être un Peggy 18 au début.
Peggy 18. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, mais toi, est-ce que tu trouves que le stick droite, c'est accessible? En plus, t'as plutôt des grandes mains.
Alors, j'ai des grandes mains, mais j'ai des doigts fins. Donc, au final...
Mesdemoiselles, à bon entendeur.
Au final, j'ai pas des gros mains de boucher, tu sais, oui, très épaisses.
Oui, t'as pas des très grosses paluches, t'as plutôt des mains fines.
Voilà, c'est
t'as
pour
quand
ça,
même des
final...
grandes mains, et ça te dérange pas d'aller rechercher ce stick droit sur
non,
le Joy-Con
que...
de droite?
Vu que derrière, j'ai les doigts fins, enfin, mon pouce, enfin, ça fait pas un gros emplac qui va se mettre sur la manette, tu vois, c'est juste un petit doigt qui va se poser juste au bon endroit, et derrière, vu que c'est assez précis, j'ai pas de soucis du tout. Alors, je pense que...
cette émission pas une tenable. Tu sais, c'était une connerie de parler de ça, de prise en
main
et
oui,
là, comme ça, on le savait.
On aurait dû plus nombreux.
Bref, je t'en prie, continue.
Mais du coup, j'ai pas vraiment de soucis là-dessus, et limite, j'ai l'impression que la manette a été faite pour des mains comme les miennes, ou alors pour des petites mains. Mais c'est vrai que j'imagine un mec avec des mains énormes, ouais, c'est pas forcément fait pour lui, ou alors il va falloir trouver une autre solution, tu vois, mais...
C'est fait pour des japonais.
Boutons, ouais, bah, en vrai, peut-être, hein. Bon, ça sent un peu le racisme dit comme ça, mais...
Non, mais
y a des morphologies qui sont différentes.
Les morphologies sont différentes, tu t'as pas les mêmes... C'est pas les mêmes gabarits, enfin... Ma chère femme qui travaille dans l'automobile peut te le dire, c'est pas les... Pour les voitures, par exemple, tu as vraiment des gabarits standards, c'est-à-dire qu'il y a une voiture, on considère qu'un mec a un gabarit standard, ça rentre là. 90 percentiles, me dit-on. Donc il y a des gabarits...
C'est bon à savoir.
Une femme de taille standard, je sais pas si vous l'avez entendu, je répète, une femme de taille standard, c'est 50 percentiles, un homme de taille standard, c'est 90 percentiles, c'est ça?
L'homme moyen,
c'est 90 percentiles. C'est pas du tout les mêmes mesures quand on est au Japon. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Donc il y a quand même des questions de morphologie, et c'est pas... voilà, c'est une réalité. Les constructeurs ne font pas les choses de la même manière. Donc du coup, Drosgar, toi, tu joues essentiellement en mode mobile ou chevalet?
Alors, en fait, au début, je jouais beaucoup sur ma télé, parce que j'ai une petite télé dans ma chambre que je m'étais achetée il y a 2-3 ans. Mais en fait, les consoles de salon, ça m'a toujours fait chier, parce que j'aime pas devoir rester fixe, et j'ai toujours été habitué, très jeune du coup, avec la Game Boy Color, à pouvoir jouer n'importe où. Et au final, c'est vrai que y a beaucoup de consoles de salon sur lesquelles j'ai plein de jeux à faire, parce que pendant longtemps, déjà, j'avais pas télé dans ma chambre, il fallait que j'aille dans le salon pour jouer sur la télé familiale. C'est-à-dire que dès que quelqu'un voulait regarder la télé, c'était compliqué. Et ça, c'est quand même une barrière assez forte pour pouvoir jouer, hein, forcément. À part pendant les vacances, c'est compliqué. Et puis, c'est quand même un effort, je trouve, d'aller allumer la télé, etc. Alors que la 3DS, par exemple, tu l'as à côté de ton lit, t'appuies sur le bouton, hop, c'est bon, t'es déjà lancé. Et au final, on retrouve vraiment ça avec la Switch, même quand elle est dans son dock. Parce que tu te dis, tiens, elle a plus de batterie, tu veux continuer de jouer, tu la fous dans le dock plutôt que de la brancher. Et au final, ça reste assez intuitif, et j'ai moins en fait ce poids, j'ai l'impression, à aller jouer à la Switch sur la télé qu'à aller jouer par exemple à la Wii U sur la télé, sur laquelle il faut que j'aille chercher le gamepad, putain, il n'y a plus de batterie, il faut que je le recharge, le CD, ils sont où, merde. Là, ça reste assez intuitif.
Ça reste plus, plus naturel, quoi.
C'est ça.
Passer de l'un à l'autre. D'accord, donc finalement, t'as fait beaucoup de modes télé. Et
en vrai, j'ai pas mal essayé tous les modes, et c'est con, mais tous me conviennent, sauf, alors, le mode avec le chevalet. En fait, c'est plus le chevalet en lui-même qui me gêne, c'est plus le fait qu'il y ait qu'une seule petite patte. J'ai l'impression qu'elle va se péter tout le temps, c'est n'importe quoi. Ils ont pu en mettre deux quand même, une de chaque côté.
Bah, ou alors façon, tu sais, Microsoft Surface Pro, une espèce de grande,
oui,
grande patoune,
ouais,
derrière. Ouais.
Parce qu'au final, là, c'est pas très stable, et vu que j'ai toujours l'habitude de jouer sur mon lit, et je vais plus avoir tendance à poser la tablette sur mon oreiller, par exemple, pour qu'elle soit un peu inclinée, quitte limite à boucher les aérations qu'il y a sur le bas à l'arrière, mais bon, tant pis, et jouer avec les Joy-Con séparés, ou alors à jouer en mode mobile, plutôt que de jouer en mode chevalet quelque part, parce que même je trouve que l'inclinaison n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que vu qu'on peut pas la régler, il faut être à une certaine hauteur, donc le siège doit être à une certaine distance, et c'est vraiment le mode qui me convient le moins avec le chevalet.
D'accord, donc toi, l'expérience que t'en as pour l'instant, c'est ça. C'est mode mobile, ok, mode télé, ok, passer de l'un à l'autre, ok. On parlera un petit peu des habitudes qu'on a prises avec ça, t'as commencé à entamer un peu le sujet, mais on parlera un petit peu de quelques habitudes. Non, mais je pense que c'est le truc le plus intéressant là-dessus, mais je voulais juste voir un petit peu les expériences qu'on essaie de partager, les expériences qu'on avait tous eues avec. Voilà, parce qu'il faut partager et ouvrir vos chakras. Zergy, on veut pas savoir.
Allez,
Zergy. Zergy, toi, tu y joues plutôt en mode donc mobile, chevalet, télé.
Alors moi, pardon, excuse-moi. Moi, c'est plutôt en mode télé. Et j'y joue surtout avec le contrôleur pro. Donc vraiment à l'ancienne. Je suis un peu un vieux con.
Ça, on le savait déjà.
voilà, c'est ça. Le mode chevalet, j'ai absolument pas essayé. J'ai regardé un peu la tronche de la espèce de petite patte là qu'il y a derrière et je l'ai vite remis en place et je m'en suis jamais resservi. Et le mode portable, je m'en suis un petit peu servi. Et franchement, le.
Parce qu'à un moment, t'avais quand même envie de faire caca et tu t'es dit, bon, on va y aller quoi.
Ouais.
C'est à peu près ça quand même.
Ouais, faut être honnête.
Hein.
Non, et puis bon, j'ai dû aller chez le médecin, j'ai pu rester 40 minutes en salle d'attente, j'étais bien content d'avoir la Switch.
Ah, ben voilà. Donc... donc d'accord, donc finalement, beaucoup de télé, très peu de mobile pour toi et pas du tout de chevalet.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais j'ai pas été déçu quoi. En mode portable, le poids est tout à fait acceptable. Hein. Et la taille, bon, c'est plus gros qu'une DS, bien sûr, enfin, qu'une 3DS. Mais ça va quoi, ça se glisse assez facilement dans un sac pour être transporté.
Alors toi qui n'avais pas eu l'occasion de l'essayer au mois de janvier, du coup, est-ce que tu t'as été plutôt surpris, soit par la taille, soit par le poids ? Enfin voilà, ce que tu nous dis, c'est effectivement le poids, la taille. Bon, c'est pas aussi portable qu'une 3DS, je suis d'accord. Mais globalement, ça, c'est vrai qu'effectivement, la taille est raisonnable. C'est, je trouve, le bon compromis entre un écran de belle taille, un truc assez maniable, c'est-à-dire que tu tiens bien en main, et en même temps, pas non plus un machin qui fait 70 pouces ingérable. Là-dessus, je suis assez d'accord. Je trouve que l'optimum n'est pas dégueu. Mais du coup, toi, t'as été surpris par quelque chose ou pas du tout ? Ou c'est vraiment ce à quoi tu t'attendais ? Ou tu t'es dit, putain, c'est vachement plus petit, ou c'est vachement plus confortable, ou je m'attendais pas à ça ?
Peut-être pas, après, je m'attendais à un truc un petit peu plus grand. En fait, c'est la Switch fait petite quand tu retires les deux Joy-Con sur les côtés, quand t'as que la tablette.
Et ça, c'est clair que ça fait vraiment...
Ça fait un téléphone, quoi, ça fait un Galaxy Note.
D'ailleurs, c'est ce que je trouve le plus impressionnant, c'est quand tu la sors de la boîte, c'est à quel point la console en elle-même est juste ridiculement petite, quoi. C'est vraiment...
Ah, mais totalement, parce que le jour où j'ai acheté, j'étais en crise après, du coup, j'ai pas pu l'ouvrir ce sort en question. Mais j'ai quand même juste ouvert la boîte pour montrer à tout le monde. Ils ont tous été sur le cul en voyant la taille. Et même moi qui l'avais testé en janvier, j'avais oublié à quel point elle était aussi petite.
Bah, en fait, c'est dans l'emballage blanc, si tu veux, le truc noir dans l'emballage blanc, tout de suite, ça rapetisse encore plus le machin. Et t'es là, genre, ah, mais d'accord, en fait, c'est tout petit. Mais même la taille de la boîte, enfin, je sais pas, ça doit être la boîte de console la plus petite que j'ai jamais eue avec celle de la 3DS XL. Enfin, la boîte dans laquelle elle vient est juste complètement ouf, quoi. Bref, c'est vrai que là-dessus, on a beau l'avoir essayé en janvier, ça reste très surprenant quand on l'essaye la première fois.
Ça, c'est sûr.
Alors, en ce qui me concerne, j'ai fait un peu de tout, c'est-à-dire que j'ai fait du mobile complet. Notamment, faut emmener les enfants dehors, très bien. Faut emmener les enfants jouer dehors,
tant mieux,
très
au
bien.
Parc.
Pas de problème, je les emmène jouer dehors. Moi aussi, je vais jouer dehors, voilà, tout va bien.
Avec la batterie.
Voilà, ça passe. Jusqu'à présent, j'ai jamais dépassé les 2-3 heures de jeu en mobile, donc ça passe. J'y ai joué dans le métro, j'y ai joué dans le RER. J'y ai joué sur le quai du RER. D'ailleurs, ce matin, quelqu'un m'a abordé. J'étais en train de jouer à Zelda, sur le quai, en attendant le train, parce qu'il y avait un peu de retard. Et quelqu'un m'a abordé en faisant... Je me suis fait aborder par un monsieur charmant, qui m'a demandé, c'est la nouvelle console de Nintendo, c'est la Switch et tout. Je fais, ouais, c'est la Switch, voilà. Et alors, c'est bien et tout. Je fais, bah, ben, regardez, machin, comme ça, c'est tout petit, on peut détacher ça.
Tiens, je te la passe, et ensuite,
l'a
volé.
Non, il me l'a pas volé, je lui ai juste montré, il l'a sous-pesé, machin. Il fait, ah ouais, c'est super, mais moi, j'espère pouvoir avoir la mienne cette semaine, voilà, tout ça. Bon, sympa, taper la discute 5 minutes avec un mec, comme ça. Et donc, j'ai fait le VRP de Nintendo. D'ailleurs, Nintendo, tu me vois un chèque, du coup. Je prendrai 2% de commission sur toutes les Switch vendues en France. Ça me va bien.
Déjà, tu prends 0,01%, c'est bien.
Mais déjà, oui, ça me suffit largement, hein, ça fait un petit chèque à la fin du mois. Bref, donc les gens la remarquent, surtout avec les deux Joy-Con de couleur, en fait. C'est oui. Là où les gens la remarquent.
C'est vrai que t'as pris la moche, toi.
Moi, j'ai pris la moche, ouais. J'ai pris la moche, mais en fait, je la trouve pas si moche que ça.
Ouais, mais il y en a plein qui trouvent pas moche, mais moi, j'ai du goût, donc je me respecte.
En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la console. Alors, ça m'a rendu dingue, d'ailleurs. J'ai pris la console avec donc les Joy-Con bleu-rouge. Et j'ai acheté une paire de Joy-Con supplémentaires, mais qui sont rouge-bleu.
Oui, du coup, ouais, t'as
du coup, tu peux faire une 100% bleue, une 100% rouge. Ça, c'est cool. Mais moi, ça me rend dingue que ce soit pas les mêmes couleurs des deux côtés. J'arrive pas à m'y faire.
Parce ça que, attends, c'est pas les mêmes couleurs.
Bah, le Joy-Con de gauche, celui qui est livré avec la Switch colorée...
Il est un peu plus rose.
Non, il est bleu. Et que celui que t'achètes à part...
Oui, ça j'ai compris. Oui, mais, d'accord, je crois que c'était pas le même rouge, en fait.
Ah non, c'est le même rouge et c'est le même bleu, sauf que c'est juste inversé. Peur. C'est juste... Moi, ça me fout les couilles à l'envers. J'y arrive pas. Hein. Ça
Ils devraient vendre les deux packs, sinon ils devraient vendre aussi des packs
bleu-rouge.
Ils vendent
un pack 100% bleu et ils vendent un pack 100% rouge.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah, pas con, ça.
Je les ai vus. Donc c'est pas mal, en fait. Tu peux avoir une paire mixée ou tu peux avoir rouge-bleu ou tu peux avoir tout bleu, tout rouge.
Ouais, ok, alors par contre, il y a JBC qui dit que lui aussi, il est team moche.
Ah oui, bien joué, JBC, team moche.
Bon, en même temps, avec sa photo profil, c'est normal, mais bon...
Oh là là.
Non, mais je parle de ta gueule, putain, si je pense que sa photo de profil, c'est le Joy-Dog avec le rouge et le bleu.
Oui, voilà, mais alors par contre, le Joy-Dog avec le rouge et le bleu, ça rend pas du tout. Hein.
Ouais, alors qu'en gris, il rend bien.
En gris, il rend bien. Non, mais team moche, moi je trouve que ça donne un peu de personnalité au truc, et je trouve ça rigolo, et en plus, effectivement, ça le distingue d'une vulgaire tablette. Je pense que si j'avais été en train de jouer sur le quai avec ma Switch, avec des trucs gris, le mec m'aurait jamais abordé, parce qu'il aurait... Peut-être même pas marqué, vu que c'était... Voilà, ça ressemble vraiment à une tablette super générique, alors que quant à ça, ça ressemble plus... Je trouve ça plus dans l'esprit Nintendo, t'as un truc un peu rigolo avec. Parce que c'est vrai que ça manque. Donc j'ai fait beaucoup de mobile, j'ai fait de la télévision, soit avec des Pro Controllers, soit avec le Joy-Dog pour essayer les deux. Moi, personnellement, les deux Joy-Con détachés, c'est pas du tout mon trip. Je comprends quand les gens trouvent ça confortable, c'est pas du tout mon truc.
Pourtant, t'as pas des mains énormes, non ?
Non, non plus. Bah, un peu comme toi, ça, j'ai plutôt des grandes mains relativement fines, mais ça me convient pas. J'arrive pas à me placer correctement. En fait, j'aime bien avoir la contrainte finalement de la manette, d'avoir la manette stable, fixe dans les mains. Ça me convient. Donc c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai que sur Wii, ça me dérangeait pas du tout, mais là, je trouve que la prise en main est pas du tout la même, et ça me tente pas plus que ça. C'est-à-dire que vraiment, au pire, je les mettrais dans le Joy-Dog, et ça me va très bien comme ça. Bon, comme j'ai une manette pro, je me pose pas trop la question, je joue généralement avec la manette pro.
Ouais. Alors que moi, la manette pro, j'ai pas encore investi, parce que... À la base, je voulais me prendre un pack de Joy-Con supplémentaire avec Snipper Clip, et en fait, du coup, je vais faire une petite dédicace ici. Ce cher homme-viande, donc @homme-viande, donc homme-viande en fait c'est une référence à Meat Boy, parce qu'il a pas compris que c'est un garçon et pas un homme, m'a offert une version de Snipper Clips parce qu'il l'avait en double. Du coup, je me retrouve comme un con à pas acheter les Joy-Con et j'en prendrai plus tard d'autres modèles, parce que je pense qu'il y en a bien des exclusifs qui sortiront un moment. Par exemple, un jeu ou Splatoon.
Des verts, des violets, des machins, des couleurs différentes, ça m'étonnerait pas qu'effectivement il y ait des trucs, ou des spéciaux pour Splatoon et autres.
Donc voilà, vu que je compte pas acheter 40 Joy-Con, je préfère attendre un peu qu'il y en ait des un peu plus originaux, on va dire, pour pouvoir en acheter. Et au final, ça m'arrange bien qu'il me l'ait offert, ça m'a évité d'acheter une paire de rouge et bleu, enfin ou bleu et rouge, je sais plus en quel sens c'est du coup.
Alors c'est rouge et bleu.
Ok, voilà. Mais du coup j'ai pas acheté de manette pro non plus parce que j'en voyais pas du tout l'utilité.
Ah bah, c'est-à-dire que si toi t'es confort avec les deux Joy-Con détachés, c'est sûr que la manette pro, aucun intérêt.
Ça. Même aucun le Joy-Dog, je m'en
sers. Pire des cas, Joy-Dog. Hein.
Ouais, mais voilà, j'en suis allé un peu au début pour montrer à ma mère parce qu'elle me dit « Mais pourquoi tu mets pas sur le socle ?»
C'est des regards, maman.
Regarde. Et, ça a l'air con. À part ça, au final, pas plus que ça. Et derrière, vu qu'au final on peut jouer à deux avec une seule paire de manettes, pour jouer à Snipper Clip, ça me suffit. Pour jouer à Mario Kart qui sort dans un mois, avec des copains, ça suffira amplement. Ils vont pas faire chier non plus. De toute façon, ils savent pas jouer. Donc, et après, pour jouer à Splatoon, on verra. De toute façon, je sais même pas s'il y a un mode multi ou pas pour l'instant. Mais tant que j'en ai pas le besoin, je vais rester avec ça. Ça me suffit amplement.
D'ailleurs, c'est intéressant que tu amènes le sujet là-dessus. Ça fait une belle transition. Le fait, parmi les choses qui ont changé avec la Switch, alors je vais pas dire que. On va pas dire ici, en tout cas, dans cette émission, que la Switch a changé notre vie et qu'on pourrait plus jamais revenir en arrière, parce que je pense que c'est quand même pas tout à fait vrai.
Ah, c'est compliqué quand même. C'est discutable. J'en connais plein qui ont dit ça. Sur Twitter, j'ai eu pas mal de monde, justement, qui considéraient leurs anciennes consoles comme des antiquités maintenant. Alors pourtant, c'est pas du tout des pro Nintendo, au contraire, c'est plutôt des mecs qui vont aller défendre un peu toutes les valeurs, et pas une marque en particulier. Et au final, c'est bien de voir ça, ça veut dire qu'ils ont vraiment frappé un gros coup.
Mais moi, je pense que enfin, je reste convaincu que la promesse de départ, qui était de dire... Alors Nintendo DS, c'est une console de salon que tu peux emmener partout. J'ai vu des gens dire c'est plutôt une console portable boostée aux stéroïdes et qui est très pratique à brancher sur la télé.
Mais je sais ça aussi.
est très efficace à brancher sur la télé. Parce que, en réalité, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que Sony aurait très bien pu le faire avec la PSP. La PSP, t'as un câble component.
Ou la PS Vita.
La PSP, hein, déjà, rien que la PSP, t'avais un câble component où tu pouvais la brancher sur la télé.
Oui, mais avec la PS Vita, t'avais le PSTV qui était fait pour aussi. Enfin, techniquement, ils l'ont fait.
Oui, mais ils l'ont fait, mais les jeux n'étaient pas tous compatibles. Enfin, c'est pas terrible.
Oui,
c'était pas abouti.
Ils l'ont fait à la Sony, ils l'ont pas fait correctement, mais...
Ils l'ont... C'est gentil, ça. Non, mais ils l'ont pas fait correctement, mais tu vois, c'est un truc con, mais rien que... Déjà, sur la PSP, si Sony avait fait une espèce de dock ou de socle sur lequel t'avais pu poser la console et qu'elle serait sortie sur la sortie componente, tu pouvais déjà faire ça, en réalité. Sauf que, bah, tu pouvais pas brancher ta manette facilement, tu pouvais pas... Enfin, voilà, c'était pas encore assez abouti. Là, moi,
c'était les mêmes jeux que sur PS2.
Pardon ?
C'était les mêmes jeux que sur PS2. Donc...
En plus, ça avait peu d'intérêt parce que finalement, enfin, Zergy a raison. Moi, j'ai eu plein de gens qui reprochaient ça à la PSP, c'est que finalement, c'était les mêmes jeux que sur PS2. Donc, enfin voilà, tu rachetais deux fois le même jeu et ça avait quand même un intérêt relativement limité. Mais voilà, techniquement, ils auraient pu, sur PSP, faire une espèce de socle sur lequel tu poses ta console et pouf, ça sort sur la télé de la même manière. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Tout un tas de raisons, je pense qu'il y avait aussi des problèmes techniques, je pense que les mecs n'y avaient peut-être pas forcément pensé, hein, tout bêtement.
Après, ouais.
La frontière vraiment. Enfin voilà, j'ai vraiment vu les deux, c'est-à-dire des gens dire c'est une console de salon qu'on peut prendre partout, des gens dire c'est une console portable surpuissante qu'on peut brancher sur sa télé, et je suis d'accord avec les deux. Et je trouve que ils ont vraiment. Enfin, la promesse est là, quoi, c'est vraiment la console portable que tu peux prendre avec toi. C'est vraiment. Enfin, la console de salon
normal.
Que tu peux prendre avec toi. C'est vraiment la console portable que tu peux brancher facilement sur ta télé. Les deux sont vrais. Et ils ont vraiment bien flouté complètement... complètement brouillé le jeu, finalement. Il n'y a plus de console portable, il n'y a plus de console de salon. T'as une expérience...
Il y a juste la Switch.
Exactement, continue. Ou, voilà, tu viens... ma femme m'a dit, ce serait bien d'emmener les enfants dehors. Je fais très bien, j'ai pris la Switch, je me suis cassé dehors, quoi. Il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de machin, il n'y a plus d'arrêt. C'est pas complètement sans couture comme expérience, mais pratiquement.
Et au final, c'est bien, parce que ça permet à chacun de trouver sa préférence et son mode de jeu préféré. Et au final, ça permet aussi de... Enfin, après, c'est mon avis, hein, et tout le monde le partage, je pense, de rallier tous les éditeurs tiers de 3DS et de Wii U, même si ça n'a pas beaucoup sur Wii U, sur une seule et même console, pour pouvoir essayer de conserver un Nintendo qui fonctionne correctement, quoi, on va dire.
Et je pense qu'à terme, ça va... Enfin, vu qu'ils ont déjà réuni... les studios de développement portables et salons, ils ont déjà essayé de rapprocher tout le monde dans le même bâtiment, dans le même machin, pour faire les mêmes choses. Je pense qu'ils vont vraiment dans ce sens-là. Mais voilà, cette question d'hybridité, elle est vraiment intéressante, je trouve. Et j'ai pas envie de dire que ça révolutionne les choses, parce qu'on est quand même un peu tôt dans la vie de la console pour le dire.
Après, on va encore dire qu'on est des NSX et tout.
Voilà, en plus, on va encore se faire reprocher. C'est vrai que l'émission s'appelle pas du tout Nintendo Joe. Enfin,
non,
c'est
Dojo Bar.
Effectivement.
par contre, pour revenir sur la console qui se branche à la télé, je suis en train de repenser à des choses que je voyais dans des magazines de magasins de jouets quand j'étais petit. Et c'était des consoles, tu sais, les consoles à 50€,
les
plug and play, où tu pouvais très bien jouer... Bah, comme une PSP, si tu veux, dans la forme, où c'était des jeux assez archaïques, en général c'était du 16 bits ou quelque chose de simpliste, et que tu pouvais brancher avec un câble, le câble, je sais plus comment ça s'appelle, vu que j'étais pas né à l'époque.
Un câble composite.
Un câble
et
composite,
tu n'as pas
exactement.
Connu l'époque du câble composite, c'est très bien.
ou une Péritel, hein, si on était très français, et derrière, pour pouvoir continuer ta partie sur la télé, en grand écran. Donc au final, le concept existe depuis longtemps aussi, hein.
Ce que je te disais, le concept existait sur PSP, le concept existait depuis beaucoup plus longtemps, parce qu'effectivement, les trucs genre VTech, t'avais souvent, tu sais, la Frog, je sais pas quoi, machin, où effectivement, tu peux aller la brancher sur la télé, mais ça a jamais été aussi pratique. Pour moi, toutes ces consoles-là, t'étais obligé de les allumer avec le câble branché, sinon ça marchait pas. Je veux dire, la sortie composite ou composante qui était utilisée marchait pas en continu.
Il y en avait qui fonctionnaient sans être branché aussi.
Oui, il y en a qui fonctionnaient effectivement sans être branché, mais ça... Enfin, je sais pas, l'expérience est tellement... Enfin, c'est assez ouf la première fois où tu te dis... Tu poses ta console sur la télé, tu vas la reprendre, et pouf, en une seconde, l'image est revenue, le son est revenu.
Tu continues par la toilette, et après tu reviens sur ta télé.
Tu reviens sur ta télé. Voilà, tu te rappelles quand tu devais mettre à pause pour aller chier, c'est fini.
Ouais, tu étais obligé de prendre ta Game Boy pour t'occuper pendant ce temps-là, c'était chiant. Hein.
Mais sur Wii U, c'était déjà presque fini, mais des fois, au chiottes, tu captais pas bien.
Ouais, bah moi, ça dépend si c'était la petite ou la grosse commission, du coup.
Bah voilà, donc tu pouvais pas faire n'importe quoi. Mais enfin voilà, cette histoire de mobilité, de fixité, je trouve ça vraiment super intéressant d'être capable d'avoir les deux d'un coup. Et en même temps, enfin je sais pas, c'est ouf. Et pour revenir juste sur un truc, c'est le mode chevalet, ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir deux manettes en permanence sur soi.
Ouais.
Ça aussi, en réalité, c'est un coup de génie parce que moi, ça m'arrive. En fait, depuis que je l'ai, je joue tous les midis au boulot avec mes collègues, notamment à Sniper Clips, mais pas que. Et c'est assez systématique. C'est genre, effectivement, tu sors la console, pouf, tu détaches les Joy-Con, tu la mets en mode chevalet, tu te mets au même bureau et paf, tu joues. C'est un truc assez ouf parce que t'es pas obligé de trimballer une deuxième manette, t'es pas obligé d'avoir deux consoles, c'est-à-dire que pour jouer à deux sur 3DS, bah faut deux 3DS, même si t'as pas deux jeux. Là, tu peux faire des jeux coopératifs sur le même écran, exactement comme tu le ferais sur une console de salon, finalement, même de l'écran splitté sur FastRMX, on peut faire de l'écran splitté.
Je trouve que c'est vraiment le gros point fort. Enfin, moi, je
Et
sais
c'est
que.
juste ouf, quoi, d'être capable de partager sa console portable avec quelqu'un sans rien rajouter.
Ah oui, non, mais c'est pour ça. Moi,
Tout
au
un plus, c'est
magasin,
juste
mon
complètement
chef
ouf.
là, je l'ai aussi. Et du coup, on peut jouer à 4. Donc, dès que Mario Kart sortira, on pourra jouer à 4 comme ça avec deux consoles. Enfin, je crois que le mode est disponible, normalement.
Oui, normalement, t'as un mode local où tu peux faire du 2 contre 2.
Voilà. Et donc, comme ça, on joue à deux consoles à 4. C'est parfait. Juste sur une petite pause, ça se fait nickel. Un grand prix complet, ça c'est tout seul. Par contre, il y a Don Kusai qui nous dit. Qui n'a pas la même philosophie entre la Switch, non pardon, je vais reprendre plutôt son tweet, que la Switch c'est la suite spirituelle de la Wii U et pas la 3DS. Du coup c'est en sens qu'elle est plutôt une console de salon, parce que les jeux vont plutôt être faits pour être des jeux de console de salon on va dire. Après je considère qu'on est encore au début de vie de la console et j'ai hâte de voir des... Entre guillemets, des petits jeux comme on avait l'habitude de voir sur 3DS qui vont très bien marcher, mais déjà Sniper Clips en soi, c'est pas vraiment un jeu de console de salon à mes yeux, c'est plutôt un jeu de console portable.
Mais
Alors que c'est un jeu de line-up.
c'est un jeu de console portable que tu peux jouer à deux n'importe où.
Oui.
Enfin, je sais pas, je trouve ça assez ouf finalement de fait de dire il y a plus aucune limite à ça. T'as plus de limite de créativité. T'as envie effectivement de faire du petit jeu qui serait plus destiné à de la console portable, mais même pas forcément du petit jeu. Je pense à un truc, par exemple, le jeu idéal pour jouer aux chiottes. Alors il y en a deux. Il y a Tetris parce que c'est le même objectif. Hein, l'objectif c'est de couler des briques le plus vite possible. Donc ça
Bon,
c'est
parce que tu fais
un.
une partie un peu longue.
Après, tu casses des briques. Tu vois, l'objectif, c'est que finalement, ça te permet de te rendre compte de l'immatérialité de ton propre corps, parce que tu fais à l'écran ce que tu fais avec ton anus. Voilà, c'est important. Donc Tetris, c'est un jeu intéressant parce qu'effectivement, c'est du jeu vraiment purement solo de réflexion. Voilà. Et puis, t'as les jeux, moi ce que je trouve génial, c'est des jeux comme Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, c'est vraiment des jeux pour aller aux chiottes parce que finalement, t'as jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure entre deux points de sauvegarde. Et c'est des jeux qui sont vraiment faits pour être pris, joués 10 minutes, arrêtés, parce que t'as toujours une sauvegarde pas loin. Tu fais jamais des très longues sessions de jeu, tout ça. T'as toujours un moment où ça sauvegarde automatiquement, où t'atteins un point de sauvegarde. Tu éteins, tu reprends. C'est vraiment des jeux qui sont étudiés pour marcher sur une console portable où tu peux être interrompu de temps en temps, voilà.
Alors que là, par contre, moi, je vois pas trop ce, enfin, j'ai pas trop ce même avis là-dessus, parce que je considère pas trop les Metroid comme des jeux auxquels tu peux jouer enfin, rapidement,
Les
parce que
Metroid
c'est des jeux dans lesquels
Fusion, je
j'aime,
parle bien de Fusion, Zero
oui, mais
Mission, je parle
c'est
pas de
ceux que j'ai
Metroid
en tête.
Prime.
Non, mais enfin, Metroid Prime, j'ai pas beaucoup beaucoup joué, donc j'ai souvent ceux-là en tête, les versions Game Boy et Game Boy Advance, pardon. Et non, justement, vu que c'est une aventure. Même si t'as souvent des points de sauvegarde, j'aime pas me bloquer en plein milieu, tu vois. Alors
Mais
que
ce
des
que je
jeux
veux dire,
avec...
c'est que tu peux le faire, c'est pas comme un. Je vois ce que tu veux dire,
Oui,
effectivement,
bien
c'est une
sûr.
longue aventure,
Oui,
donc
y a possibilité.
t'as envie de continuer. Et je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que le jeu t'entraîne effectivement à dire, ah, je vais aller, j'explore juste la salle d'après et j'arrête, quoi. On connaît
Je vois
tous ce
plus...
phénomène-là.
Bah oui, totalement. Je vois plus un jeu avec des niveaux comme un Mario classique, ou un jeu avec des combats comme Pokémon, par exemple, où tu peux te dire, bah tiens, je fais mon combat et après j'arrête, que tu peux faire rapidement. Que justement un jeu où t'es plongé à fond dans l'aventure et où tu vas pas réussir à t'arrêter toi-même, même si t'as un point de sauvegarde, au final, tu vas passer une demi-heure et tu chopes des hémorroïdes au final.
Oui, c'est bien possible. En plus, faut vraiment se méfier. Faut utiliser une crème dans ce genre de cas-là.
En plus.
À la camomille. Non, mais en plus, ça sent bon. tout va bien. Si vous nous écoutez, tout se passe bien. On n'est pas
Il y
du
a
tout
Don
fatigué.
Kusai qui nous dit aussi qu'il y avait le Game Boy Player où tu pouvais jouer au jeu Game Boy Advance sur la télé, puis. Via la Game Boy Advance, tu continues où tu veux. Dans mes souvenirs, c'était ce qu'il y avait sur la GameCube, non? Sur le GameCube. Oui.
Oui, tout à
Oui,
fait, c'est ce qu'il y avait.
le GBA Player, ouais, c'est sur GameCube.
Ouais, mais du coup, la différence par rapport à la Switch, même si c'était déjà un premier pas dans ce domaine, c'est que tu étais obligé d'éteindre la console, enfin, tu devais retirer la cartouche pour la remettre
tout
dans
ta
Gamebox pour relancer la partie.
Voilà, t'avais pas d'expérience sans couture, où tu pouvais vraiment fluidement passer du portable à machin, non, ça marche pas. C'était vraiment en mode j'éteins et je vais jouer sur grand écran. Alors, c'est une expérience particulière. Le Game Boy Player est quelque chose de très plaisant à utiliser. Parce qu'il y a certains jeux, justement, je trouve qu'ils ne sont pas du tout adaptés pour de la console portable. Je ne vais pas citer d'exemple là, mais c'est vrai que du long JRPG, machin, c'est pas du tout adapté à de la console portable. Je trouve, parce que justement, tu peux pas faire des sessions courtes de jeu. Et c'est le genre de truc sur lequel Game Boy Player avait un petit intérêt. C'est-à-dire que tu jouais sur ta télé, en mode confortable, dans ton salon, voilà. Ouais. Pas de... c'est pas la même expérience de jeu quand tu joues confortablement assis dans ton canapé, bien posé, tu sais que t'as 2 heures pour jouer, t'es tranquille. Au pire des cas, tu vas aller t'interrompre pour aller rechercher des chips ou aller chier. C'est vraiment le pire des trucs qui puissent t'arriver. Alors que quand t'es sur une console portable, je sais pas, moi, une console portable, j'y joue quand je suis dans le train, dans le bus, en train de jouer avec les gamins dehors. Enfin, c'est vraiment quand je suis en situation où j'ai pas une console, une télé, une prise de courant. Je suis vraiment en situation de mobilité complète où je suis vraiment obligé d'aller jouer autrement. Et dans ce cas-là, tu fais des... Enfin, moi, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir des sessions de jeux courtes. Il y a des jeux que je trouve super adaptés à la console portable, genre Fire Emblem, c'est juste...
Ah oui, non,
c'est génial, parce que tu fais 3-4 mouvements, tu peux très bien mettre un signet pour arrêter et éteindre ta console,
et aller repartir un peu plus tard.
Aller engueuler le gamin parce qu'il remonte le toboggan, et puis revenir et refaire ton truc, quoi.
Mais derrière, c'est vrai que là aussi, j'ai pas la même conception de la console portable parce que j'ai beaucoup joué chez moi, tu vois, genre dans mon lit ou parce que vu que je passe souvent à la console de salon, au final, j'y joue n'importe où et j'ai pas de jeu préféré sur console portable parce que ça dépend juste de l'endroit où je suis en fait. Et c'est pour ça, je vais avoir des jeux en déplacement et des jeux chez moi, mais du coup, c'est pour ça que la Switch aussi, elle s'adresse à mort à mon utilisation du jeu vidéo en général, hein, c'est parfait.
Bah, c'est ce que j'allais dire, il y a tout un tas de gens pour lesquels c'est parfait. Les gens qui veulent du jeu portable, je pense qu'il y aura effectivement des jeux qui seront plus adaptés pour du format portable. Mais c'est pas forcément gênant. Je veux dire, un Metroid Fusion, c'est pas super gênant d'y jouer sur ta télé, c'est même plutôt agréable. Hein. C'est, le jeu il est plutôt joli. Donc je me dis que si les mecs arrivent à faire des jeux comme ça, c'est-à-dire des jeux qui sont faits pour du mobile, enfin faits pour du jeu en mobilité, mais que tu peux jouer sur de longues sessions. Ou c'est des longues sessions, mais du coup, bah, quand t'es en mobilité, c'est vrai qu'en plus, la Switch, elle sort de veille, elle rentre en veille instantanément
hyper
ou quasiment.
Vite, ouais.
Enfin, ça, là-dessus, c'est vraiment du bonheur aussi, de ce point de vue-là. Une des grandes réussites, c'est ça aussi. Hein. Je veux dire, là, dans le métro, faut monter dans la RAM, je la mets en veille, je la range dans mon sac juste pour monter, pour pas être emmerdé. Je la ressors, pouf, j'appuie sur le bouton, t'appuies 3 fois sur un bouton, hop, ça y est. Tu reprends exactement là où t'en étais. T'as plus de... plus vraiment de limites sur ce genre de choses-là.
Je voudrais juste revenir du coup sur
oui.
L'aspect hardware pur, parce que j'avais vu du coup un article qui traitait une news qui traitait d'une vidéo où un mec malmenait un peu sa Switch, et au final, il y avait 2-3 trucs qui étaient intéressants sur les matériaux qui la composent. Par exemple, apparemment, mais ça, je l'ai pas remarqué sur la mienne, parce que faut vraiment gratter pour se rendre compte, les marques des boutons, enfin les lettres des boutons ne sont pas en fait juste imprimés dessus, elles sont
gravées.
En fait littéralement dans, c'est pas vraiment gravé, mais c'est littéralement dans le bouton, et enfin c'est ce que je comprends pas vraiment, mais même en grattant ça part pas.
Comme sur les manettes Xbox, elles sont incrustées dedans.
Alors attends, j'ai ma manette Xbox qui est pas loin.
Tu peux la regarder, en fait t'as une espèce de couche transparente.
Oui. Sauf que là elles sont pas transparentes, parce que si t'as ta Switch sous la main, justement j'ai vu l'article, j'ai regardé sur la mienne, et on dirait vraiment pourtant que c'est posé dessus comme n'importe quel bouton.
Oui,
et en fait non, apparemment
codement,
Et du coup, il n'y a aucun risque que ça s'efface avec le temps. Et ça, je trouve sympa, parce que c'est vrai que sur les claviers, par exemple, les lettres qui partent, c'est vraiment quelque chose de gênant. Enfin, de gênant. Si c'est un clavier pas cher, on s'en fout. Mais là, quand c'est une console que tu veux garder, auquel t'as un petit, quand même, je sais pas, un petit côté sentimental avec elle, ça te ferait chier qu'elle parte en lambeaux au bout d'un an. Et c'est vrai que...
J'ai l'impression que les mecs ont fait un truc relativement solide. C'est vrai que, effectivement, quitte à reparler de hardware... J'ai l'impression que le truc est quand même solide, alors je le ferai pas tomber par terre, mais tu peux pas la tordre. Quand les Joy-Con sont fixés dedans, ils sont bien fixés, t'as un vrai rail en métal bien, bien solide, bien costaud, qui... Voilà, tu peux pas les retirer comme ça. En termes de finition, je trouve que... les finitions des consoles Nintendo, ça a toujours été quand même relativement bon. Il y a quelques exceptions, on va dire, peut-être je crois que c'est
La première 3DS.
La première 3DS, ouais, le clapet était pas terrible. Mais c'est vrai que pour le reste, les DS de manière générale, le clapet, la charnière au milieu était quand même relativement fragile. Donc voilà, mais
c'est pour ça que la 2DS pour les enfants, c'est parfait.
C'est pour ça, effectivement, je pense que la 2DS existe d'ailleurs juste pour ça. Hein, juste parce que, effectivement, ce truc-là était trop fragile pour de plus jeunes enfants.
Par contre, tu parlais des rails, des Joy-Con. Je me souviens plus si on en a parlé la dernière fois ou si c'est juste que je l'ai trop vu sur Twitter. Mais si on met les Dragon, par exemple, dans sur le mauvais Joy-Con ou dans le mauvais sens, au final, ça te nique totalement le rail. Et
Alors, non, parce que moi, ça m'est arrivé une fois et j'ai réussi à le retirer sans rien niquer.
Ah oui, on en a parlé la dernière fois, c'est ça. Enfin, ça te nique. Ça dépend comment tu l'enlèves, justement. Mais tu peux très bien mettre, par exemple, les manettes, enfin, les Joy-Con dans le mauvais sens. Enfin, par exemple, ta Switch est à l'envers. Tu vas mettre le Joy-Con droit sur la partie gauche. Vu que t'es à l'envers, en fait. Imagine
oui,
tu prends le dans le mauvais sens.
Oui, mais je crois que c'est. Enfin, c'est pas. Ça casse quelque chose ou pas?
Et ben, apparemment, il y en a plein qui sont retrouvés comme des cons. Alors, ils sont des connes bourrins aussi, hein, bien sûr. C'est pas que la faute du hardware, mais. Ils l'ont dit pour certains.
Oui, il y aurait peut-être dû y avoir un détrompeur ou quelque chose comme ça pour.
Mais voilà, il manque un détrompeur à mes yeux.
Ouais. Oui, effectivement, ils auraient pu faire un truc, un côté peut-être un tout petit peu plus biseauté pour que ça puisse pas arriver, mais il y a toujours des connards qui auraient forcé dessus et qui auraient réussi à la rentrer.
Hein. Ah oui, bien entendu, hein, là derrière, on peut pas tout empêcher. Mais c'est vrai que là, l'erreur est humaine, mais elle peut arriver assez vite, j'ai l'impression, vu que. Surtout en plus, si on a les Joy-Con de couleur, qu'on est habitué à avoir un sens, pour peu qu'on change
et
le sens.
Qu'on ait acheté le mauvais.
Voilà, c'est ça le mauvais.
Non, c'est horrible. C'est horrible.
Alors que moi, au moins, avec les gris, je suis tout attention, tu vois, parce que je sais qu'il faut regarder du bon côté, mais ça peut arriver, c'est un peu dommage.
Ouais, je sais pas, peut-être qu'effectivement, il manque quelque chose. Enfin, si c'est le seul reproche qu'on a à faire au hardware, ça va, quoi, tu vois.
Ah non, ça va, de ce côté-là, j'ai vu que les choses comme quoi étaient très solides, comme quoi. L'écran, faut le protéger, mais. Quand t'as un écran de cette taille, comme pour tout, faut pas être con non plus. Maintenant, dès qu'on achète un téléphone, on met forcément un écran de verre, ça me semble logique. Parce que derrière, on a tellement de risques de casse que.
Apparemment, là, il n'y a pas de risque de casse parce que c'est pas du verre. C'est
non,
du
là
plastique,
non plus, mais
il y a du risque de rayures. Voilà. C'est-à-dire, contrairement à. Alors, pour expliquer la différence, hein, quand on a un écran en verre, il peut pas se rayer. Quand c'est du verre traité. Anti-rayures, tout ça. Il ne se raye pas, mais par contre, il peut se casser, c'est-à-dire se fissurer. Quand on a un écran en plastique, il peut pas se fissurer, mais par contre, il peut se rayer. Donc, c'est un choix, après, du constructeur. Hein. C'est effectivement qu'est-ce qu'on considère qui est le risque le plus prépondérant. J'aime bien ce mot. Pour finir, parce que va quand même falloir qu'on finisse, j'ai adoré la partie sur la mobilité, la fixité, le machin. Je trouve que c'est vraiment passionnant. Je pense qu'on en reparlera de ce changement d'habitude et de ce changement de manière que les gens ont depuis la Switch, de dire « il n'y a plus de limite, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de salon, il n'y a plus de portable », c'est vraiment, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, la promesse est vraiment tenue, et c'était quand même ce qu'il y avait de plus important, et ça marche, réellement.
D'ici quelques mois, on aura fait quelques sondages sur le dojo pour voir un peu ce qu'en pense tout le monde, et leur mode préféré, pour essayer de faire des estimations, et comme ça on pourra peut-être en reparler, mais c'est vrai que pour le moment, on est encore un peu tôt dans la vie de la machine.
Je pense qu'on est tôt dans la vie de la machine pour parler de révolution, mais je pense que dans quelques années, on regardera la Switch en arrière, et qu'on se dira c'est quand même un bel outil. Et je pense que la Wii U sera peut-être vue aussi comme ce que disait Shigeru Miyamoto, une étape nécessaire. Un échec nécessaire, pratiquement. C'est-à-dire que, oui, fallait que ça merde, ce truc-là, mais c'était une étape nécessaire avant d'arriver à la Switch.
Parce que la Switch en 2011-2012, ça n'aurait pas été beau à voir, je pense.
Je pense que ça aurait été très compliqué. Et effectivement, pour tout un tas de raisons, je pense que techniquement, ça aurait été très compliqué. Ne serait-ce que parce que les fabricants de cartes graphiques ont fait des progrès absolument gigantesques ces 3-4 dernières années sur les questions
ça, c'est sûr.
De taille, de dissipation thermique, de puissance, de capacité, de taille de transistor. Enfin, c'est vraiment la loi de Moore pour les processeurs, elle est plus vraie depuis quelques années maintenant. Ça fait quand même.
Par contre, pour les cartes graphiques.
Pour les cartes graphiques, putain, le progrès, il est gigantesque. Le gap qui a été franchi est énorme. Enfin bref, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'OS. Parce que. Il est un peu tristoun l'OS pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus, il ne fait pas grand chose.
C'est pas si mal, moi je trouve que c'est pas si mal. On n'a plus la musique d'ascenseur de la Wii U.
Et, effectivement, il est très silencieux.
Et aussi il y a le côté direct, quoi. T'as pas 50 000 menus, 36 000 icônes et compagnie, t'as l'eShop, les amis, tes jeux et point barre. Et les options.
Oui, c'est vrai qu'il y a, un côté très épuré. Il y a des gens qui avaient dit ça ressemble beaucoup à une interface de console Sony. faut relativiser un petit peu. Mais c'est vrai que ça y ressemble d'une certaine manière pour le côté très très sobre et très enfin qui va directement à l'essentiel, quoi. Effectivement, t'arrives sur le menu principal, c'est directement tes jeux, ils sont en grand, y a pas de... Tous les jeux auxquels tu as joué sur ta Switch sont affichés. Donc ça aussi, je trouve ça assez pratique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas quand tu mets une cartouche que le truc va s'afficher, c'est il affiche tous les jeux, que ce soit du matérialisé ou du dématérialisé, il te le met. Et t'as ta liste d'amis en haut à gauche, et puis c'est à peu près tout. Et contrairement à la Wii U, t'étais obligé de sélectionner un utilisateur, puis t'avais un chargement, puis tu sélectionnais ton jeu.
Là, c'est l'inverse.
Là, c'est exactement l'inverse. Tu sélectionnes le jeu, plus l'utilisateur. Alors, moi qui ai plusieurs utilisateurs sur la console, je trouve ça vachement plus pratique, en fait. Parce que, mine de rien, quand tu quittes un jeu, en fait, c'est...
T'as besoin de recommencer depuis
Voilà, c'est obligatoirement pour en charger un autre, mais c'est pas forcément la même personne. Donc, je trouve que ce côté-là est plus logique, finalement. C'est-à-dire que sur Wii U, tu sélectionnes l'utilisateur, puis tu lances ton jeu. Là, finalement, c'est tu sélectionnes ton jeu, puis tu sélectionnes la sauvegarde que tu vas utiliser, quoi.
Ouais, mais moi qui n'ai qu'un seul utilisateur sur ma console, je fais chier qu'ils me le demandent à chaque fois. Ils auraient pu faire en sorte que lorsqu'il n'y a qu'un seul utilisateur, on lance directement. Plutôt qu'à chaque fois donner le choix entre cet utilisateur et en créer un nouveau.
Ouais, mais alors là je suis d'accord, effectivement, quand t'es tout seul dessus, ça doit être un peu agaçant. Mais le côté multi-utilisateur de l'OS est pas. Je le trouve un poil mieux foutu que sur Wii U, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Par exemple, il n'y a pas de code, tu peux pas protéger ton profil avec un code.
Bon, après, parce que t'as protégé dessus...
Moi, si le gamin il me massacre ma sauvegarde, je vais peut-être pas être très content, quoi.
Ouais, bon, c'est vrai.
C'est un truc à la con, mais voilà, quand c'est une console... La Wii U, tu sentais que c'était vraiment une console qui était faite pour toute la famille. C'est-à-dire que chaque membre de la famille pouvait avoir son profil avec ses trucs, ses machins, ses bidules. Là, tu sens que c'est vraiment plus une console portable et Nintendo s'est dit qu'il faut faciliter l'accès, faut éviter d'aller faire un truc trop lourd. Je sais pas, alors, on sait que l'OS va évoluer parce que là, il est vraiment extrêmement basique et il y a tout un tas de trucs qu'il n'y a pas dedans, qui manquent, finalement. Zergy, tu nous disais que toi, tu trouvais ça parfait parce que justement, c'était épuré, simple et ça allait à l'essentiel.
Oui, et puis, en plus, Drosler parlait du système utilisateur. C'est pas trop un problème, hein. Tu fais sur ton utilisateur, t'appuies sur A et c'est chargé instantanément.
Oui.
T'as pas à pouvoir ôter 30 secondes comme sur Wii U.
Ah non, c'est rapide, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est cet accent en plus qui me demande à chaque fois, alors que je suis tout seul, quoi. Enfin, ça me rappelle à chaque fois à quel point je suis le seul à jouer à la maison et...
Et que c'est triste.
Et que je suis loin dans ma tristesse absolue.
Moi, j'ai une dernière petite remarque sur l'OS. Je sais pas si vous avez eu l'occasion. Alors, il y a des jeux où c'est très bien géré, il y a des jeux où c'est pas très bien géré, donc je sais pas si c'est la faute au développeur, entre guillemets, ou si c'est la faute à Nintendo. Donc voilà. Il m'est arrivé de lancer... alors, c'est Super Bomberman R qui m'a posé le plus de problèmes. C'est-à-dire que quand tu lances le jeu, en fait, si tu lances le jeu et que t'étais sur les deux Joy-Con, en fait, les deux Joy-Con sont la manette 1. Et en fait, quand tu veux changer, faut quand même revenir sur le menu principal, aller dans le menu manette, et ensuite appuyer sur L et R de chaque manette pour pouvoir les remettre dans un ordre différent ou dans une configuration différente. Voilà, je trouve que ce passage de une manette avec deux Joy-Con à deux manettes avec un Joy-Con sur chaque manette est quand même pas idéal sur certains jeux. Voilà, c'est une remarque comme ça, ça m'a pas tué, mais c'est vrai qu'au départ sur Bomberman, j'étais surpris, je m'attendais à ce que quand tu lances une partie multijoueur, il te demande automatiquement de remettre les Joy-Con en mode indépendant. Et en fait, pas du tout, il faut vraiment repasser par le menu, aller appuyer sur manette, changer d'ordre ou de style, appuyer sur le bouton L et R de chaque manette pour que ce soit bien manette 1, manette 2 et pas juste manette 1 en deux fois.
Ouais, c'est pas forcément hyper intuitif.
C'est pas ultra intuitif. Moi, il m'a fallu un petit temps pour charger, mais maintenant je le sais. Et effectivement, en fait, pour Bomberman, c'est pas illogique parce qu'en réalité, tu peux y jouer à deux avec deux manettes pro, par exemple. Donc, c'est le seul reproche que j'ai vraiment à faire à l'OS. Et je crois que j'ai eu un plantage durant lequel j'arrivais pas à éteindre la console du tout. Il a fallu que j'appuie sur le bouton pendant 30 secondes pour qu'elle s'éteigne parce qu'il y a plus rien qui répondait.
Je crois que j'ai dû avoir quelque chose un peu comme ça, mais je sais plus si c'était juste le jeu et en sortant, en revenant avec le menu, ça m'a suffi.
Oui, apparemment, il y a encore, de ce que j'ai compris, Nintendo a encore une petite fuite mémoire à corriger au niveau du GPU sur le firmware actuel. Il y a un petit souci. Bon, je m'attends de toute façon à ce qu'il y ait des gros trains de patch qui arrivent fin du mois et que toute façon, l'OS de la Wii U, c'est pareil. Hein. Si vous voulez vous amuser, vous remettez à zéro votre Wii U, regardez l'OS d'origine. C'est une vraie catastrophe par rapport à l'OS qu'on a maintenant, qui est déjà pas forcément super véloce et pas forcément super pratique. Mais il était vraiment bien pire au départ.
C'est pour dire.
Oui, c'est pour dire qu'il y a eu un gros chemin de parcouru. Donc je pense que Nintendo collecte tous les problèmes et va effectivement s'en occuper au fur et à mesure qu'ils vont ajouter des fonctionnalités. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Enfin, dans l'absolu, je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes dessus, et notamment l'OS a beaucoup beaucoup de progrès à faire. Il est vraiment très dépouillé aujourd'hui. Je pense qu'ils rajouteront pas mal de choses, probablement un navigateur très rapidement, à condition de corriger les bugs qu'ils ont eu sur le navigateur actuel. Et puis après, bon, probablement d'autres applications, mais voilà. Donc, dans l'ensemble, et pour conclure, est-ce que vous pensez que... Enfin, est-ce que les personnes à qui vous l'avez fait essayer, par exemple, sont déjà un peu plus enclins à l'acheter, ou est-ce qu'elles l'étaient déjà? Ou est-ce que vous l'avez fait découvrir à des gens? Alors, j'exergue non, puisque finalement, tu y as joué pratiquement que tout seul.
Ouais, j'ai un petit peu joué au boulot à l'arrache, mais bon, voilà, je l'ai fait essayer à personne.
D'accord. C'est un peu triste, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Drosgar, toi, du coup, est-ce que tu as réussi à convaincre des gens simplement en montrant la machine et en la mettant dans la télé ou quelque chose comme ça? Enfin, voilà, en montrant juste le concept, est-ce que tu as réussi à convaincre des gens en vrai?
Bah, pas vraiment, parce que c'était déjà des gens qui étaient un peu convaincus à la base. Enfin, c'est des gens qui étaient intéressés par la console et qui voulaient se la... Enfin, qui veulent
se la
prendre un jour.
C'est des technophiles avertis, donc de toute façon, voilà.
Bah, c'est ça, ou alors des joueurs avertis en général. Enfin, même pas forcément qui jouent énormément, mais qui savent que c'est la... C'est celle qui suit, entre guillemets, la 3DS et la Wii U. Du coup, bah, tous les joueurs de Pokémon 3DS vont vouloir se la prendre au bout d'un moment s'il y a un Pokémon qui sort dessus. Et je sais que j'ai pas mal de copains qui veulent se la prendre, bah, soit à la fin de l'année, soit l'an prochain, mais pas forcément tout de suite, parce qu'il n'y a pas assez de jeux pour vendre la console, mais qui l'ont dans le radar, en tout cas, ça c'est sûr. Après, des gens qui ne sont pas du tout... qui n'étaient pas intéressés à la base, c'est compliqué, je pense, de les faire changer d'avis d'un coup, comme ça. Surtout avec le peu de jeux qu'il y a pour le moment, je vais pas trop m'amuser, je préfère attendre un peu pour leur en parler quand ça vaut vraiment le coup, plutôt que maintenant où au final je la conseille pas, si... Enfin, imagine t'as pas Zelda...
On va être clair, si t'as une Wii U...
Ah oui, totalement, ça sert à rien.
Enfin voilà, c'est vraiment pour se faire plaisir.
Après l'avantage c'est que la Wii U c'est tellement peu vendue qu'au final le nombre de potes qui en ont, il s'élève à 2.
Oui non, c'est clair, hein, c'est extrêmement limité, donc c'est pour ça que c'est pas forcément idiot, mais c'est vrai que moi on m'a posé la question, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant, et j'ai répondu clairement non. Enfin, si t'as envie de jouer à Zelda et que t'as pas de Wii U, oui, je pense que ça vaut le coup. Maintenant, si t'as pas forcément envie de jouer que à Zelda, ou que t'as pas envie de perdre des dizaines d'heures sur Zelda, 55 heures pour Drosgar en 2 semaines, hein, je rappelle, Zelda dont on parlera dont on parlera la semaine prochaine.
Parce que j'ai mis...
Je pense qu'on va être bon là.
Est-ce que je suis là?
Là, il est... Si, tu seras là.
J'espère.
Tu seras obligatoirement là. Bref, enfin voilà, si effectivement, si t'as pas envie de jouer à Zelda, ou que c'est pas le jeu qui te passionne à mort, bon, ça vaut, à mon avis, pas le coup. Ça vaudra peut-être déjà largement plus le coup avec un Mario Kart 8 Deluxe et un Splatoon cet été. Et puis éventuellement les quelques jeux qui vont arriver entre deux. Je pense que ça va s'étoffer, ça commencera... Enfin, de toute façon, je pense qu'il n'y a aucune console de jeu qui justifie un achat Day One, ça n'existe pas. Ce que tu achètes, c'est du potentiel, éventuellement, mais c'est dans le meilleur des cas.
Ça, c'est sûr.
Bref, nous allons nous quitter. Alors, c'est une émission courte, non, ça va. Non, on a fait à peu près la même durée que d'habitude, finalement.
Une heure, c'est parfait.
Nous allons nous quitter avec une citation du jour qui va être en fait un conseil. On va appeler ça le conseil du jour. Ne jouez jamais à saute-mouton avec une licorne. Voilà. C'était mon conseil du jour.
Merci, Mortal.
De rien, ça me fait plaisir. On va se quitter. J'ai oublié de charger la musique du quittage. Donc je vais la charger. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Nous allons donc nous quitter. On vous fait des bisous. Je pense que la semaine prochaine, on parlera de Zelda. Je suis pas encore sûr. Faut que je
vérifie le planning.
Mais on va parler de Zelda. Il fallait bien qu'on y arrive à un moment donné, mais il fallait aussi laisser le temps aux gens d'arriver à avancer suffisamment. C'est un jeu qui est extrêmement long, extrêmement dense, extrêmement complexe.
J'aurai 80 heures d'ici là.
Je pense que d'ici là, tu l'auras peut-être fini. Long et très long et très dur.
Oh, pas si.
Très long et très très dur. Voilà. On se dit ciao tout le monde à la semaine prochaine. Bisous.
Salut.
Je te remets en direct, je m'en fous, j'en ai rien à péter. T'es pas de race, je te remets en direct. En plus, tu vas être décalé, ça va être atroce.